VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, John Lindon et Morgane Guiriec au micro. Bienvenue à cette édition du mercredi 17 février 2016. À la une ce soir.
La crise persiste au Burundi. Une grenade a été lancée dans une gare. Par ailleurs, plus de 50 personnes ont été arrêtées.
Mais les opposants au régime de Bujumbura affirment que ces redditions demeurent une mascarade du pouvoir pour continuer les arrestations de tous ceux qui sont contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
J-4 avant la présidentielle au Niger, le vote par témoignage est autorisé.
Un électeur qui est porteur de sa carte d'électeur mais n'a pas une deuxième pièce d'identification, notamment sa carte d'identité, eh bien il pourra voter si deux électeurs inscrits sur la même liste du bureau de vote l'identifient.
Au Sénégal, le président renonce à réduire son mandat de 7 à 5 ans. Nous verrons ce que cela implique.
Et au Yémen, un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique a fait au moins 14 morts.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, JO 2024, les villes candidates lèvent le voile sur leurs projets. Mais d'abord, le journal.
Crise au Burundi, une grenade a été lancée ce mercredi dans une gare au nord de la capitale, Bujumbura. Par ailleurs, plus de 50 personnes ont été arrêtées hier dans le quartier de Musaga, au sud de la capitale. On fait le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kourounziza.
Dans le quartier contestataire de Musaga, au sud de Bujumbura, plus de 50 jeunes ont été arrêtés ce mardi par les forces de l'ordre. Ils sont soupçonnés d'être de mèche avec les jeunes qui ont lancé des grenades ces derniers jours dans la capitale, faisant des dizaines de blessés. Les témoignages des habitants de ces quartiers indiquent que ces jeunes ont été arrêtés après avoir été exhibés devant 5 terroristes repentis. Si ces derniers confirment que quelqu'un travaillait avec eux, ce jeune est alors directement arrêté, tandis que d'autres sont relâchés. Mais les opposants au régime de Bujumbura affirment que ces redditions demeurent une mascarade du pouvoir pour continuer les arrestations de tous ceux qui sont contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Une grenade a également éclaté ce mardi à la place communément appelée Gare du Nord dans le quartier de Kamenge, faisant 4 blessés. Une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête selon la police. Soulignons que selon la Fédération internationale des droits de l'homme, plus de 4000 personnes ont été arrêtées depuis les manifestations d'avril de l'année dernière et plusieurs dizaines d'autres ont disparu. La FIDH parle aussi de 500 morts. Christophe Kourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le Burundi et la République démocratique du Congo demandent au Conseil de sécurité de rappeler à l'ordre le Rwanda. Kigali est accusé de recruter des réfugiés burundais pour déstabiliser Bujumbura. L'ambassadeur burundais Albert Shinkiro a réclamé une réunion d'urgence du Conseil afin de prendre des mesures appropriées pour s'assurer que Kigali ne cherche pas à déstabiliser le Burundi. Dans une autre lettre au Conseil, l'ambassadeur de RDC, Ignace Gata Mavita, demande, lui, d'inviter le Rwanda à respecter ses engagements internationaux et arrêter sans délai ses recrutements et toutes les opérations qui s'en suivent.
J-4 avant la présidentielle au Niger. Le vote par témoignage vient d'être autorisé. On fait le point avec Nicolas Pinault, notre envoyé spécial à Niamey.
Et oui, Boubé Ibrahim, le président de la Commission nationale électorale indépendante, la CENI, il a signé ce mercredi l'arrêté autorisant le vote par témoignage. Le vote par témoignage, c'est très simple finalement. Un électeur qui est porteur de sa carte d'électeur mais n'a pas une deuxième pièce d'identification, notamment sa carte d'identité, eh bien il pourra voter si deux électeurs inscrits sur la même liste du bureau de vote l'identifient. Il y a évidemment polémique puisque ce vote par témoignage concerne plus d'un million d'électeurs. L'opposition y est farouchement opposée et dénonce une manœuvre du pouvoir qui était favorable évidemment à ce vote par témoignage. Mais en tout cas, le mystère est levé. Il y a des tensions au sein de la Commission électorale nationale indépendante concernant la signature de cet arrêté. Mais en tout cas, le vote a été fait aujourd'hui à la CENI. Et autre information importante, j'ai pu rencontrer Boubé Ibrahim ce matin, le président de la CENI, qui confirme que les résultats seront dévoilés au maximum 48 heures après le vote du 21 février. Nicolas Pinault depuis Niamey pour V. VOA Afrique.
Élection en Centrafrique, Faustin Archange Touadéra a largement dévancé dans la capitale Bangui son rival Anicet Georges Dologuélé au deuxième tour de la présidentielle tenue dimanche en Centrafrique, selon des résultats provisoires annoncés mercredi par l'Autorité nationale des élections. L'ANE a décliné bureau de vote par bureau de vote. Les scores réalisés dans la capitale sans toutefois donner des chiffres globaux. Selon les compilations établies par l'AFP, pour l'ensemble de la ville de Bangui à partir des données de l'ANE, M. Touadéra l'emporte très largement avec un peu plus de 120 000 voix en sa faveur contre plus de 55 000 pour son adversaire Dologuélé.
En Ouganda, 15 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain pour une élection présidentielle couplée à des législatives. Les principaux candidats ont tenu leur dernier meeting hier à Kampala. On fait le point avec Idriss Fall.
Quelque 15 millions d'électeurs sont appelés dans 28 000 bureaux de vote demain pour choisir leur président et 290 députés. La commission électorale dit s'attendre à un vote dans le calme. Lundi, une personne a été tuée à Kampala lorsque la police a dispersé Manu Militari, un rassemblement d'opposants, et Kizza Besigye a été brièvement interpellé. Le président sortant Yoweri Museveni, 71 ans et au pouvoir depuis 30 ans, a tenu hier son meeting final dans le centre de Kampala. Il est donné favori et fera face à 7 candidats, dont Kizza Besigye, qu'il avait déjà battu lors des 3 derniers scrutins. M. Besigye a assuré que si cette élection est truquée comme il s'y attend, il continuera à se battre toujours pour la démocratie. Amama Mbabazi, ancien cacique du pouvoir, a lui aussi promis le changement.
À Bamako, au Mali, la mission de l'ONU, la MINUSMA, a rendu hommage aux 7 casques bleus guinéens tués le 12 février lors d'une attaque djihadiste à Kidal.
Scandale de l'Arche de Zoé, la condamnation du président de l'ONG Éric Brito et de sa compagne Émilie Lelouch est définitive. Le pourvoi en cassation a été rejeté. Souvenez-vous, en 2007, ils avaient tenté d'exfiltrer du Tchad vers la France 103 enfants présentés comme des orphelins du Darfour. Mais la quasi-totalité des enfants avait pourtant au moins un parent ou un adulte qu'ils considéraient comme tel.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation mondiale de la santé, qui coordonne la réponse au virus Zika, a publié aujourd'hui à Genève un appel de fonds de 56 millions de dollars. Le point avec Nanit Talani.
25 millions doivent financer les actions de l'OMS sur le continent américain. Les 31 millions restants doivent appuyer les activités des partenaires de l'organisation. Le cadre annoncé aujourd'hui doit permettre de surveiller le virus Zika, d'améliorer le contrôle du moustique vecteur de cette maladie et de communiquer efficacement sur les risques et les mesures de protection. Il s'agit aussi d'assurer un accès médical aux personnes infectées et d'accélérer la production de vaccins, diagnostics et traitements. Après les critiques sur la gestion de la réponse à Ebola, l'OMS a lancé un programme d'urgence qui intègre un système de gestion des crises. Début février, l'agence de l'ONU avait décrété une urgence de santé publique de portée mondiale pour Zika. Découvert en Ouganda en 1947, ce virus est suspecté de provoquer de graves troubles neurologiques chez les nouveau-nés et le syndrome de Guillain-Barré. Plus de 4000 cas suspects de microcéphalie ont été recensés à ce jour, dont plus de 400 ont été confirmés en liaison avec le virus.
Un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique a fait au moins 14 morts et des dizaines de blessés dans un camp militaire à Aden, grande ville du sud du Yémen, où des organisations djihadistes agissent à visage découvert, selon un nouveau bilan. Un homme a actionné sa ceinture d'explosifs au milieu de soldats rassemblés pour une séance d'entraînement dans un camp militaire supervisé par la coalition arabe.
La Turquie a une nouvelle fois proposé mercredi de créer une zone de sécurité en territoire syrien, en y incluant cette fois la ville d'Assaz, qu'elle bombarde depuis plusieurs jours pour empêcher les combattants kurdes de Syrie d'en prendre le contrôle.
Le nombre de groupes incitant à la haine raciale et de milices anti-gouvernementales a augmenté pour la première fois depuis plusieurs années, en 2015 aux États-Unis, alimenté notamment par la peur du déclin de la majorité blanche. C'est le cri d'alerte lancé par l'ONG Southern Poverty Law Center. Selon cette organisation qui documente depuis le début des années 70 les violences raciales et communautaires aux États-Unis, le nombre de groupes incitant à la haine envers les minorités noires, hispaniques, juives ou musulmanes et les homosexuels est passé de 784 à 892 de 2014 à 2015.
Le Premier ministre français Manuel Valls a jugé mercredi que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne constituerait un choc pour l'Europe et affecterait le regard porté sur ce continent. Le Premier ministre britannique David Cameron a promis un référendum sur le maintien ou non de son pays dans l'Union européenne. Il espère arracher un compromis lors du sommet des 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne jeudi et vendredi à Bruxelles, ce qui lui permettrait d'organiser cette consultation dès le mois de juin.
Et puis la chancelière allemande Angela Merkel a appelé les dirigeants européens à une action commune sur la crise migratoire lors de leur sommet, alors que la politique d'ouverture de l'Allemagne suscite des crises de plus en plus fortes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le président camerounais Paul Biya a pris un décret portant revalorisation des taux de cotisation sociale qui passe de 7 à 8,4%, indique l'APA. Cette mesure induit également le relèvement du plafond des salaires cotisables qui passe de 300 000 francs CFA à 750 000 francs CFA, ainsi que le rallongement de la durée de contribution évoluant de 15 à 20 ans. La quatrième édition du Forum international Afrique Développement se tiendra les 25 et 26 février à Casablanca, au Maroc. Co-organisée par le groupe Atidjari Wafa Banque et Maroc Export, sous le thème « Agriculture et électrification, mobiliser les énergies », cette rencontre est une plateforme de dialogue et d'affaires en faveur de la coopération Sud-Sud. Les eaux maritimes de la Mauritanie contiennent 700 variétés de pêche, dont 200 d'une grande valeur commerciale, a déclaré le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Nani Ould Chrouga. Ces variétés sont inexploitées à cause de la négligence ou de la méconnaissance de leur valeur, a-t-il estimé lors d'un atelier à Ouadibou sur la pêche expérimentale à la langouste. Le ministre a expliqué que la phase expérimentale a donné des résultats dépassant largement les estimations. Le volume de capture de la langouste a atteint 782 tonnes sur le seuil maximal des 800 tonnes autorisées.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie.
Et nous accueillons Eric dans ce studio et c'est pour parler de sport. Eric, bonsoir.
Bonsoir John.
Volleyball, qualification historique au JO pour les Camerounaises.
C'était hier, des indomptables camerounaises ont gagné contre les Pharaons au tie break 3-7 à 2 lors du tournoi africain de qualification olympique. Une victoire qui offre une première participation d'une équipe de volleyball camerounaise aux Jeux olympiques.
On reste dans les JO. JO 2024, les villes candidates lèvent le voile sur leur projet olympique.
Des logos, des slogans, des forces et des faiblesses. Los Angeles, Paris, Rome et Budapest sont désormais officiellement embarqué dans une aventure diplomatico-sportive qui se terminera par le vote du CIO le 13 septembre 2017 à Lima au Pérou. Et comme slogan, Los Angeles a choisi « Suivez le soleil jusqu'en Californie », tandis que Paris se forge être la force dans Rêve John.
Football, FIFA, avertissement et amende pour Beckenbauer.
L'icône du football allemand devra payer environ 6 350 euros. Le comité d'éthique de la FIFA l'accuse de n'avoir pas collaboré avec une enquête de la justice interne de l'instance. C'est en rapport avec l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022 en dépit de demandes d'aide répétées. John Beckenbauer avait déjà été suspendu pour 90 jours en juin 2014, mais cette suspension avait été levée au bout de deux semaines.
En Champions League, Bayern de Munich, Guardiola a des problèmes de taille avec la Juve.
Oui, Pep a reconnu aujourd'hui faire face à un problème de taille avant de se déplacer chez la Juventus mardi prochain, en huitième de finale. Décimé, sa défense centrale manque de trois grands gabarits.
AS Rome, Real Madrid, Zidane revient sur la piste aux étoiles.
Exactement, ce rendez-vous a des airs de grande première pour Zidane. 10 ans après ses adieux, il revient sur la scène de la plus prestigieuse des compétitions de club comme entraîneur du Real Madrid, avec l'obligation d'être digne du joueur virtuose qu'il a été. Et Rooney sera absent pendant 2 mois sur le terrain.
Merci Eric et sportez-vous bien.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Diriek et John Lindon en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Sénégal.
Au Sénégal, donc, le président Macky Sall, contrairement à son engagement électoral, renonce à réduire son mandat de 7 à 5 ans. Il finira son mandat actuel en 2019 et propose un référendum le 20 mars pour amender la Constitution. L'opposition a réagi vivement à cette nouvelle position du président sénégalais. Idriss Fall a recueilli la réaction de Maître Amadou Sall de la direction du PDS, ancien parti au pouvoir.
Grande déception face à ce qu'il convient d'appeler un reniement. Le président Macky Sall avait été chaleureusement félicité par le président Barack Obama, de même que par le président François Hollande et même par le président Martin Schulz de la Commission européenne pour la décision qu'il avait annoncée de réduire son mandat. C'était des félicitations et un hommage obtenu de façon frauduleuse parce qu'il n'avait pas la volonté de respecter un engagement qu'il a pris. Donc, quand un président se renie, naturellement, le citoyen et le démocrate que je suis se sent triste.
Et apparemment, il dit suivre l'avis du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a donné un avis défavorable. Le président de l'Assemblée nationale a donné un avis favorable. Pourquoi ne suivrait-il pas l'avis du président de l'Assemblée nationale plutôt que l'avis du Conseil constitutionnel? Et puis le Conseil constitutionnel n'émet qu'un avis. Puisque l'avis n'est pas conforme, il n'avait qu'à s'adresser au peuple et le peuple sénégalais décide.
Mais c'est ce qu'il a fait. Il a convoqué un référendum pour le 20 mars.
Oui, mais le référendum est sans objet. Puisque l'essentiel du référendum, c'était la réduction du mandat et qu'il s'appliquait à lui-même. C'est lui-même, Macky Sall, président de l'Assemblée nationale, qui l'a porté de 5 à 7 ans. C'est lui qui a fait voter ça. De la même façon, on aurait absolument pu retourner à l'Assemblée nationale pour ramener le mandat de 7 à 5 ans.
Quand il était président de l'Assemblée nationale, il a ramené le mandat de 5 à 7 sur ordre de son ancien chef qui s'appelait Ablaye Wadeno.
Vous voulez dire que le président de l'Assemblée nationale a un chef, le président de l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif. Son seul chef, c'est le peuple sénégalais. Il a été élu par le peuple. Vous imaginez le président du Congrès américain dire « Mon chef Obama m'a demandé de faire », ce serait inacceptable en démocratie.
Au moins, Macky Sall 2019, ça signifie aussi qu'il pourrait rempiler en 2024 s'il reste au pouvoir.
Attendez d'abord qu'on y arrive. Macky Sall, un président qui se renie, un président qui ne respecte pas sa parole, ce n'est pas une promesse, c'est un engagement. Il s'est engagé. Il l'a dit. Souvenez-vous, lors du sommet USA-Africa, et je crois que le sommet s'est tenu en août 2014. Il a dit, vous savez, je suis un homme qui ne s'engage pas à la légère. Lorsque je prends un engagement, j'entends le respecter. C'est à la suite de ça que le président Obama l'a félicité. Quand en août 2014, il prend un engagement aussi ferme, qu'il ne vienne surtout pas dire, élisez-moi encore, que ce soit 2017 ou 2019.
Maître Amadou Sall de la direction du PDS, ancien parti au pouvoir.
Arrestations, censure, kidnapping, des menaces parfois fatales pour les journalistes de la Syrie. Au Nigeria, les terroristes les éliminent. De la Somalie au Burundi, les régimes musellent la presse. Nicolas Hénin, journaliste et ancien otage de l'État islamique, en parlera avec nous. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
J-4 au Niger avant la présidentielle. Les 15 candidats battent campagne alors que le président sortant, Issoufou, est favori de ce scrutin. Reportage à Niamey de notre envoyé spécial, Nicolas Pinault.
Les rues de la capitale nigérienne sont animées depuis le début de la campagne électorale. Du rose, du orange, les affiches des candidats sont bien visibles un peu partout. Plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour élire un nouveau président et des députés. Élu en 2011, le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Mahamadou Issoufou, affirme que son bilan parle pour lui. Écoutons le député Assoumana Malam Issa. Il est en charge de la mobilisation nationale pour le PNDS. Il se dit confiant quant à la victoire au premier tour de son candidat.
Nous sommes sereins, nous sommes confiants et nous avons la conviction que les élections vont se dérouler dans de très bonnes conditions. En plus du programme qu'on a mis en œuvre, on a proposé un autre programme qui est porteur d'espoir, qui est une sorte de continuité de ce qu'on a déjà fait. Donc nous avons plusieurs raisons, trois raisons, quatre raisons fondamentales qui nous font croire, avec la mobilisation perceptible qu'on a vue, que notre candidat va être élu dans le premier tour, Inch'Allah.
Comme en 2011, Seyni Oumarou sera le candidat du MNSD Nassara. Et le grand absent de cette campagne, c'est Tama Amadou, arrivé troisième lors du précédent scrutin présidentiel. L'ancien président de l'Assemblée nationale est en prison dans l'affaire dite du trafic de bébés. Sa candidature a pourtant été validée, mais le candidat du Modem Lumana Africa reste bien derrière les barreaux. Une drôle de campagne, comme le reconnaît son directeur national, Mahamadou Youba Diallo.
Pour nous, nous pensons qu'il est un prisonnier politique. Parce que le dossier dans lequel on l'a injustement impliqué, tous ceux qui sont dans ce dossier-là, eh bien, ils sont aujourd'hui en train de mener la campagne. Et parmi eux, il y a des candidats à la présidence. Et pourquoi Haman ne sort pas? Ils peuvent nous expliquer ça?
Une quarantaine de partis ont d'ores et déjà apporté leur soutien au président Issoufou qui pourrait l'emporter dès le premier tour. C'est son pari. Un objectif crédible, selon le directeur du journal L'Événement, Moussa Aksar.
Oui, moi je pense que le président Issoufou est favori. Si on regarde à travers le rétroviseur ce qu'il a eu à faire comme réalisation, il a un fort bilan. Et pour la première fois, on voit que c'est une quarantaine de partis politiques qui le soutiennent pour sa réélection. Et pour qu'il soit élu dès le premier tour, si on regarde aussi, il y a des candidats, il y a un parti politique, l'ANDP Zamalekia, ne présente pas de candidat. Et c'est un parti vraiment qui est aussi au niveau de l'Ouest et le soutien de le premier tour.
Les missions d'observation de l'UEMOA ou de l'Union africaine sont présentes au Niger pour s'assurer du bon déroulement du scrutin du 21 février. Et Nicolas Pinault depuis Niamey pour VOA Afrique.
La voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Le tourisme en difficulté en Afrique. Depuis 2007, les chiffres du secteur dégringolent sur le continent. La menace terroriste effraie, surtout après les récentes attaques à Bamako et à Ouagadougou. Dans la région du Sahel où il y a eu le plus d'enlèvements d'étrangers, les touristes viennent au compte-gouttes. Le point avec Maëlys Hegel.
Le Sahel est classé zone rouge par Paris. Le directeur du centre de crise du Quai d'Orsay, Patrice Paoli, rappelle l'insécurité présente dans cette région.
Il y a aujourd'hui, dans toute une partie du Sahel, un risque terroriste accru. Il s'est manifesté à Bamako au mois de novembre. Il s'est manifesté à nouveau au Burkina Faso le 15 janvier. Et donc, c'est bien entendu un risque qui est pris en compte, mais qui ne conduit pas nécessairement à déconseiller à tout voyageur, tout voyage dans ces pays.
En tout cas, la conséquence, c'est que les Français sont de moins en moins nombreux à se rendre dans les pays du Sahel. Kadi Mehdi est responsable de Mauritanie Voyage et guide touristique.
Ces recommandations ont eu des effets très négatifs sur l'ensemble de l'économie touristique. Certaines de ces populations ont été obligées de fuir à cause du manque de travail, du chômage et autres. Parce qu'avant la crise de 2007, on avait quand même 96% de touristes français. Aujourd'hui, si on regarde à l'arrivée de la frontière, ce taux ne représente même plus 1%, tellement les gens sont menacés, entre parenthèses, par les assurances pour venir. Les avions aussi sont fortement déconseillés aux voyageurs d'aller dans ces pays. Donc les compagnies aériennes vérifient énormément les passeports, les visas et autres. Donc aujourd'hui, la clientèle française particulièrement est très, très, très minimale. Bien que si on la compare, par exemple, aux Hollandais, aux Allemands et autres, voire même de l'Europe de l'Est, qui sont les Russes, les Polonais aujourd'hui, fréquentent cette destination sans hésitation.
Est-ce qu'aujourd'hui vous parvenez à ne vivre que du tourisme ?
Ah non, du tout, malheureusement. Ça a été une économie qui est revenue de zéro. Dans le temps, on avait un revenu assez correct de manière à vivre pendant les 6 mois et à pouvoir survivre les autres 6 mois de l'année. Mais là, depuis 2007, plus aucune recette de cette économie n'existe. Le tourisme aujourd'hui ne représente plus aucun revenu, ni pour l'État, et encore moins pour les autochtones.
Dans les années 90, avant l'explosion du tourisme, le taux de pauvreté dans le Sahel était très élevé. En 10 ans, le tourisme a permis de créer des emplois et donc de faire baisser le taux de pauvreté. Guides touristiques, traducteurs, chauffeurs, maîtres d'hôtel sont des métiers qui disparaissent aujourd'hui, ramenant le taux de pauvreté à son point de départ d'avant les années 90.
On termine en musique. La chanteuse d'origine béninoise, Angélique Kidjo, a remporté lundi sa 3e distinction au Grammy Award à Los Angeles. L'artiste a été récompensé dans la catégorie du meilleur album de musique du monde pour Sings, une compilation de ses chansons interprétées avec l'orchestre philharmonique du Luxembourg. Angélique Kidjo était l'invitée de Roger Muntou dans le RM Show hier soir.
Ah, l'ambiance était festive et puis relax. Et puis j'avais avec moi mon mari et puis l'arrangeur de l'album et le chef d'orchestre, Gaz Balzine de Luxembourg, qui a fait le voyage exprès. Et quand on a commencé à parler de ce projet-là en 2011, il y avait beaucoup de scepticisme. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Bon, comment on peut mettre l'Afrique dans la musique classique, je le disais, l'Afrique dans la musique classique. Vous connaissez Jean-Sébastien Bach, l'Afrique qui est déjà avec lui. La musique classique ne peut pas exister sans la musique africaine. Aucune musique ne peut exister sans la musique africaine. Car nous sommes tous africains, dans notre ADN, les rythmes sont là. Seulement, il faut aller les chercher, parce que souvent, on n'y pense pas.
Et il faut dire que l'album Sings l'a remporté face à celui de la légende de la bossa nova brésilienne, Gilberto Gil. Celui de l'innovant groupe malawite Zomba Prison Project et l'album de la joueuse Sita Nushka Shankar, fille du défunt Ravi Shankar. Alors la question c'est de savoir, alors ce Grammy-là, c'est dédié à qui ?
Aux artistes traditionnels de notre pays et à la musique traditionnelle. Car sans la musique traditionnelle, on n'aurait pas la musique du monde dans lequel nous vivons. Quand on dit folk music, c'est ça en fait. Le folk music se base sur cette musique qui existait, qui a été un héritage des artistes traditionnels d'aujourd'hui qui nous passent. Souvent, quand les gens parlent de musique traditionnelle, qui vient surtout d'Afrique, et c'est sur le fantasme de cantonner l'Afrique à ses traditions. Je ne pense pas qu'elle ait pu être moderne. Si elle n'était pas moderne, elle aurait disparu. Parce que le temps change, les réalités changent de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Et cette musique est toujours la flexible de cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Puisse se faire entendre, puisse se chanter pour continuer à nous bercer, pour continuer à nous rendre forts et à nous faire comprendre que la musique, en fait, en gros, c'est quoi. C'est un langage universel qui est là pour tout le monde. Et que chaque artiste dans ce monde peut toujours venir en Afrique se ressourcer dans cette musique traditionnelle.
Alors, en parlant de cette musique traditionnelle, quand j'écoute l'album même de Sings et d'autres chansons, c'est comme si tu t'es inspiré de la musique brésilienne. Est-ce que c'est vrai ?
Oh, la musique brésilienne, surtout de la musique brésilienne qui vient de Salvador de Bahia, d'où est originaire Gilles. Et Gilles le reconnaît. Dans l'Afrique, elle n'aurait pas existé. La musique brésilienne ne pourrait pas être la musique qu'elle a aujourd'hui. La musique des esclaves qui sont arrivés, qui a rencontré la beauté de la musique brésilienne, c'est qu'elle a réussi à mettre des harmonies classiques sur les rythmes africains.
Voilà, c'était la chanteuse d'origine béninoise Angélique Kidjo, et vous pouvez écouter l'intégralité de cette interview sur voaafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225 58 92 425-4-8-9-2-4-0. Je répète, 225-58-9-2-4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Lionel et à la console Nelson Lopes. Présentation Morgan Guiriec et John Linden.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos et vidéos. Posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.